Bonjour à chacun de vous, ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer. Merci aux organisateurs, même s'ils n'ont pas obéi tout à fait aux injonctions de Luther. Hein. Vous vous souvenez, on vient de fêter là, le 500e anniversaire de la Réforme. Et Luther disait la chose suivante, « Il n'est pas d'habit qui aille plus mal à une femme que lorsqu'elle se mêle de faire la savante. » Donc, deux femmes dans le programme. On voit que les organisateurs se sont bien éloignés des injonctions de Luther. Alors, mon thème, c'est donc le christianisme par rapport aux droits de l'homme à travers l'histoire, même si cette notion de droits de l'homme est tout à fait récente, puisqu'on parle de droits de l'homme depuis la fin du XVIIIe siècle, hein, avec extrême fin du XVIIe siècle, avec les révolutions anglaises et puis la révolution française. Alors évidemment, la France a toujours dit qu'elle était pionnière en matière de droits de l'homme, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque la révolution anglaise a 100 ans d'avance par rapport à nous. Et puis, lorsqu'on a fêté en grande pompe il y a 20 ans, 1989, le bicentenaire de la Révolution française, 30 ans bientôt, oui, ça passe tout ça. Oui. Et donc, Margaret Thatcher avait été invitée parce qu'on avait déroulé le tapis rouge et puis, évidemment, toutes les têtes couronnées d'Europe, toute l'élite était présente à Paris. Et Margaret Thatcher a dit « Oui, bien sûr, je viens louer le rôle pionnier de la France, mais l'Angleterre, avec la Grande Charte déjà au XIIIe siècle, avait un rôle vraiment moteur en matière de droits de l'homme. » Et c'était vrai, parce que la Grande Charte, hein, que j'ai vue de mes yeux quand je suis allée à Londres, à la British Library, la Grande Charte est le premier texte qui limite les droits du roi. C'est ça, en fait, l'idée de droit de l'homme, au départ, c'est de limiter les droits de l'État pour reconnaître des droits, des prérogatives aux individus. C'était ça, c'est la grande idée des droits de l'homme. Et donc déjà, dans cette Grande Charte qu'on avait un peu arrachée à Jean Santerre, que ces barons avaient arrachée à Jean Santerre au XIIIe siècle, en 1215, il y avait cette idée que l'État ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il y avait cette idée qu'il devait accepter la mise en place de jurys pour juger les infractions, il devait accepter le consentement à l'impôt, il devait accepter la liberté d'aller et venir, etc. Donc c'était un texte vraiment, vraiment avant-gardiste. Ah, cette petite machine me pose problème. Très très doucement. Alors, donc c'est une notion qui est relativement récente, c'est une notion qui a fait l'objet de polémiques, la notion de droit de l'homme, notamment quant à son origine. Quelle est la paternité des droits de l'homme? On y revient toujours, hein, on revient à Margaret Thatcher. En fait, il y a eu une polémique au début du XXe siècle entre deux grands juristes, le français Émile Boutmy, qui était fondateur de l'École libre des sciences politiques, qui était protestant d'ailleurs, et qui disait que la Déclaration des droits de l'homme, c'était un pur produit français. C'est l'ancêtre de Sciences Po, hein, l'École libre des sciences politiques. Elle a été fondée en 1872. Et l'autre grand juriste, donc, c'était le juriste allemand Jelinek, un philosophe du droit, théoricien du droit, qui disait que la Déclaration française, c'était qu'une copie, une pâle copie des déclarations américaines, et que ces déclarations américaines étaient elles-mêmes le produit du génie allemand. Rien que ça. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça peut se tenir quand même, on verra tout à l'heure, parce que il prend en compte la grande évolution des droits de l'homme, et Jelinek s'appuie sur le fait que les colonies anglaises, donc qui se sont révoltées contre leur métropole et qui sont parties fonder les futurs États-Unis d'Amérique, avaient mis en place, on le verra tout à l'heure, des textes tout à fait pionniers en matière de droits de l'homme. Et comme ces textes tout à fait pionniers vont ensuite inspirer la Déclaration des droits américaine, que cette Déclaration américaine, elle a vu le jour quelques années avant la Déclaration française, eh bien les Français se sont contentés de recopier voilà, le texte américain. Bon, c'était excessif, parce qu'on sait bien qu'on ne lit pas la même chose dans les deux textes, mais il y avait une certaine logique. Mais enfin, Jelinek connaissait mal l'histoire religieuse, parce que les puritains, on verra après, hein, qui ont été à l'origine quand même de ces textes novateurs en matière de droits de l'homme au XVIIe siècle, que ce soit en Pennsylvanie ou dans le Rhode Island, ils étaient beaucoup plus proches de Calvin que de Luther. Et c'est vrai que la réforme a été initiée en Allemagne par Luther, et Calvin, que je sache, est bien de chez nous, donc c'est un Picard bien de chez nous. Alors, pour essayer de réconcilier tout le monde, j'ai trouvé donc chez Paul Hazard, qui est un historien connu en histoire du droit, et Paul Hazard disait la chose suivante, et c'est une citation qu'on donne souvent aux étudiants, parce que comme ça on leur dit, il vous faut réviser tout le programme, hein, parce que nous sommes des héritiers surchargés, puisque l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance pèsent sur nous. Mais c'est du XVIIIe siècle que nous sommes les héritiers directs. Ça veut dire qu'en fait, dans notre hérédité, eh bien, la France, aujourd'hui, elle est la fille de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, même si l'élément déclencheur, hein, qui a impulsé les droits de l'homme, ça a été le XVIIIe siècle qui a formalisé, qui a vraiment impulsé cette dynamique des droits de l'homme. Parce qu'on est passé, en fait, au XVIIIe siècle, hein, d'une société qui était fondée sur le devoir, autrefois, à une société fondée sur l'état de droit. Et l'état de droit, c'est un état qui accepte des limitations pour consolider, justement, des prérogatives, les prérogatives humaines. Et en même temps, on passe d'une société fondée sur le groupe. Sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française, on ne connaît que des groupes. On ne parle jamais d'individus, d'hommes, mais ce sont vraiment des groupes. C'est la paroisse, c'est la famille, c'est la nation, c'est l'État, c'est les ordres, etc. Mais pas des personnes, on ne parle pas de personnes. Et donc désormais, on met en avant l'individu, la personne humaine qui a des droits contre les groupes, qu'elle peut opposer à ces groupes. Alors, un autre élément à avoir à l'esprit quand on démarre avec ce sujet, c'est que souvent, les droits de l'homme, c'est pas évident de les associer avec le christianisme, hein, dans nos sociétés. Pourquoi ? Parce que les déclarations de droits de l'homme, je dis là, mais les déclarations, elles sont nées souvent en dehors des églises. Enfin, surtout la nôtre, hein, la déclaration de droit française, elle est née en dehors des églises, d'autant plus que l'église catholique s'y est opposée très longtemps. Aux droits de l'homme, à toute cette idée des droits de l'homme. Ça hérissait le poil du clergé catholique qui parlait toujours des droits de Dieu, mais pas, il ne faut pas reconnaître des droits à l'homme. Et c'est ce que disait Henri Pénard-Ruiz dans un de ses ouvrages sur la laïcité. Il disait que les droits de l'homme, ils sont venus, mais on les a vraiment accouchés au forceps, hein, contre le cléricalisme pluriséculaire, le cléricalisme de l'Église catholique. Et c'est vrai aussi, parce que quand on regarde le syllabus de Pie IX, de 1864, c'est le catalogue des erreurs modernes, syllabus errorum. Tout ce qui n'était pas catholique se retrouvait catalogué dans son syllabus, tout. Il y avait le mariage civil, il y avait le protestantisme, l'anarchisme, le socialisme, la libre pensée, le communisme, les sociétés bibliques, enfin tout ce qui n'était pas catholique était donc dans son syllabus errorum. Alors il a l'air très sympathique, très jovial, ce pape Pie IX, mais en fait c'était un pape vraiment de poigne. Il est resté au pouvoir de 1846 à 1878, si mes souvenirs sont bons, je crois que 32 ans je crois au pouvoir. Et sous son pontificat, on a assisté à la promulgation justement du dogme de l'Immaculée Conception en 1854 et surtout de l'infaillibilité pontificale en 1870. Quand il perd ses états pontificaux, il va promulguer le dogme de l'infaillibilité pontificale. Donc c'est vraiment l'exemple type du pape un peu réactionnaire, Pie IX. Il a été béatifié en 2000, si mes souvenirs sont bons, en même temps que Jean XXIII. Ça a étonné tout le monde, parce que Jean XXIII, c'est le pape qui a précédé Paul VI, et c'est Jean XXIII qui avait initié le concile de Vatican II, qui est un concile quand même d'ouverture, hein, par rapport au concile de Vatican I, qui était en 1870, qui avait promulgué donc, ce dogme de l'infaillibilité pontificale. Mais donc ils ont été béatifiés ensemble, les deux. Alors, donc le christianisme vient-il le christianisme, les droits de l'homme sont-ils initiés plutôt par la pensée chrétienne ou par une pensée révolutionnaire? Alors, les positions sont ambivalentes. Tout à l'heure, je parlais de Pénard-Ruiz, mais d'autres philosophes affirment des choses tout à fait opposées, comme Frédéric Lenoir, dans son livre, je crois, sur Jésus, dit que le christianisme a favorisé le droit de l'homme, l'égalité des femmes, la mise en avant des femmes. Et on verra tout à l'heure ce point de vue plus en détail. Donc, et Frédéric Lenoir n'est pas seul. Il y a aussi, je pense, un historien du droit qui s'appelle Jean-Louis Harwell, qui a écrit un ouvrage aussi sur les droits de l'homme. Je pense aussi à Louis Dumont, qui doit être décédé depuis quelques années, qui est un anthropologue, qui a écrit sur l'individualisme, recherche sur l'individualisme, et il montre comment la notion d'individu, justement, est née grâce au christianisme. Donc c'est cette attitude un peu ambivalente qu'on va étudier, en sachant que le christianisme, il a eu pour véhicule l'Église, enfin les Églises. Et donc on va parler de l'attitude de ces Églises, comment elles ont interprété le message, plus ou moins bien d'ailleurs, à notre regret sans doute plutôt mal que bien, mais comment elles ont interprété le message qu'elles étaient censées incarner, ces Églises. Alors, dans une première partie, on va voir comment le christianisme a nié les droits de l'homme, il les a effacés, et dans une seconde partie, on verra comment il a été amené plutôt à valoriser les droits de l'homme, à les promouvoir, ces droits de l'homme. Alors, la négation des droits de l'homme commence au IVe siècle, quand l'Église chrétienne est associée à l'État. Constantin, l'empereur romain, donc, se convertit en 312, il adopte l'édit de Milan en 313, M-I-L-A-N, oui, parce que dans les copies d'étudiants, je vois parfois édit de Milan, M-I-2-L-E-A-N. Alors maintenant, j'épelle édit de Milan, M-I-L-A-N, en 313, qui reconnaît l'Église chrétienne. C'est la première étape, c'est une reconnaissance. Le christianisme est aligné avec les autres religions. Et ensuite, en 380, on va plus loin. En 380, avec l'empereur Théodose, Théos, ça veut dire envoyé de Dieu, l'empereur Théodose fait du christianisme une religion d'État, cette fois-ci. Ça veut dire que c'est la seule religion autorisée. Les cultes païens, les hérétiques, les juifs seront désormais persécutés. Et ça va très vite. C'est vrai que c'est un peu triste quand on assiste à ce basculement sur le plan historique. Alors, il ne faut pas mettre tout sur le dos non plus de Constantin, parce que la doctrine de l'Église, déjà avant le IIIe siècle, commençait à se muscler théologiquement. Alors évidemment, il y avait les sectes, les hérésies de partout, on n'avait pas de canon, sens actuel, etc. Mais Saint Cyprien, qui était un vrai pasteur, troisième cycle, oui, un problème, bon, c'est pas grave. Cyprien, qui était évêque de Carthage, donc au IIIe siècle, il meurt en 254, quelque chose comme ça, il meurt martyr, ou 252. Quelques années avant de mourir, il écrit un ouvrage qui s'appelle « De l'unité de l'Église ». Et Saint Cyprien, c'est on dit que c'est un des pères du catholicisme. Un historien allemand qui s'appelait Arnack disait « Quand est né le catholicisme ?» C'est difficile de le dire clairement. Mais on est sûr qu'avec Saint Cyprien, il est bien né, le catholicisme, parce que c'est lui qui nous dit « hors de l'Église, il n'y a pas de salut ». Donc on peut bien imaginer qu'avec cette doctrine, lorsque l'Église sera associée à l'État, eh bien on va presser instamment les hérétiques d'entrer dans l'Église. Alors, à partir du moment où l'Église donc, est reliée à l'État, on va bientôt passer à un régime qu'on appelle le régime de chrétienté. Alors, il y a eu l'étape, je n'ai pas mentionné ici, l'étape du baptême de Clovis, à la fin du 5e siècle, qui a fait de la France la fille aînée donc, de l'Église catholique, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, puisque Clovis est le premier roi païen à se convertir au catholicisme. Autour de lui, les rois sont soit païens, soit ariens. Les ariens niaient la divinité de Jésus. Donc, il devient le suppôt un peu du pape en Occident, même si les liens sont encore formels, mais pas très très construits encore à l'époque de Clovis. C'est à l'époque de Charlemagne qu'on entre en pleine sphère de chrétienté, à l'époque des Carolingiens. Donc, Charlemagne avait un père qui s'appelait Pépin le Bref, et Pépin le Bref se fait sacré. C'est la première fois qu'on assiste au sacre d'un prince. On va plus loin. Clovis était simplement baptisé. Pépin le Bref est sacré, c'est-à-dire qu'on reprend les cérémonies de l'Ancien Testament, du sacre des rois, Saül, David, Salomon, et les Carolingiens se veulent des nouveaux David, des nouveaux Salomon, etc. Charles Martel, le grand-père, est associé à Josué parce qu'il a repoussé les Arabes, etc., comme Josué. Donc on entre dans une dynamique vétérotestamentaire, en fait, à cette période, avec les Carolingiens. Et puis en plus, donc il y a le couronnement de Charlemagne, mais il y a un événement qui est très important, c'est que Pépin le Bref va faire don au pape des, ce qu'on appellera plus tard, les états pontificaux. C'est tout ce qui est en rose fuchsia, là, sur la carte, et qui devait protéger le pape des incursions des Lombards au nord. Et donc, pour le protéger, il fallait qu'il ait des territoires étendus autour du Vatican. Et bien, ce sont ces fameux états pontificaux. Donc c'est quand même la France qui les a donnés quelque part. Voilà, la société de service mutuel, elle devient de plus en plus tricotée, si vous voulez. Parce que le pape va venir sacrer Pépin le Bref, il va être sacré deux fois. Ensuite, Charlemagne va se faire couronner par le pape. Il y a ses états pontificaux. Charlemagne va intervenir pour le protéger encore quand il en a besoin militairement. Donc c'est vraiment, c'est ça la chrétienté. C'est l'idée de fusion, confusion du politique et du religieux. Et ces états pontificaux donc, prennent fin en 1870. Il y a vraiment des siècles là, de notre histoire qui sont en germe à cette époque. Alors, dans cette société de chrétienté, État et Église marchent main dans la main, c'est un peu excessif, parce qu'il y a eu des tiraillements. Hein. Il y en a eu des rois qui se sont fait tirer l'oreille, etc., à cause de leurs problèmes conjugaux, de leur renvoi d'épouse, etc. Mais globalement, on est d'accord sur le fait qu'il doit y avoir une seule religion. L'hérésie, c'est le plus grand danger. L'hérétique souille le corps social. Si ta main est pour toi une occasion de chute, tu coupes. Hein, c'est vrai que c'est une exégèse un peu rapide, mais voilà, c'est ça. Il faut enlever du corps social l'hérétique qui le souille. Et donc, on va pendre, noyer, etc. Alors, je parle de l'Inquisition du Moyen-Âge, mais il n'y a pas que l'Inquisition. En France, l'Inquisition, elle a eu une durée de vie assez courte, parce qu'en fait, ce sont les tribunaux d'État qui vont réprimer le protestantisme. Mais en Espagne, l'Inquisition espagnole, elle sera féroce hein, et elle va durer jusqu'au XIXe siècle. Je crois que c'est Napoléon qui va mettre fin à l'Inquisition espagnole. Mais en terre protestante, c'est pareil. Hein, on chasse les sorcières des deux côtés. À droite, je crois que c'était les sorcières de Salem au Massachusetts. Et je crois que c'était Genève, là, l'exécution d'une sorcière. Il faut savoir qu'en terre protestante, moi, ça m'a beaucoup surprise quand j'ai travaillé sur mon cours d'histoire du droit pénal, on a éliminé beaucoup plus de sorcières qu'en terre catholique. On appliquait à la lettre l'Ancien Testament. Hein, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et Luther, Calvin, voilà, on chassait les sorcières. Calvin, lorsque la peste a frappé Genève dans les années 1540, il a accusé les sorcières. À l'époque, voilà, il y avait un bouc émissaire facile. C'était les sorcières qui envoyaient les bubons, là, les infections de la peste. Et donc, si vous lisez que sais-je sur la peine de mort, vous verrez, la peine de mort en terre protestante, on en a noyé, hein, et coupé, et pendu. Et... Donc, c'est un petit peu effrayant. Mais c'est toujours l'idée, c'est la même idée à la base, hein, c'est que il n'y a qu'une religion et l'hérétique souille. Les pauvres anabaptistes, ils ont trinqué des deux côtés. Hein, ça a été une histoire assez terrible. Alors, une exception à l'intolérance, même j'en parlerai après, mais Castellion, je veux uniquement en parler maintenant. Donc le pasteur Castellion, qui a vécu à l'époque de Calvin, qui a été au départ disciple de Calvin, et puis qui s'est séparé de Calvin parce qu'il trouvait que Calvin mettait en place une religion intolérante, et après l'exécution de Michel Servet, Castellion, il a failli passer d'ailleurs par l'Inquisition lui aussi, ça va qu'il a pu être protégé, mais ça, il est un des pionniers en matière de liberté religieuse. Alors c'est dommage parce que Castellion, on le connaît assez mal. En fait, Castellion, on en a fait le père de la théologie libérale. Il est très étudié dans les facultés de théologie protestante libérale. Comment elle s'appelait Ferdinand Buisson, que j'évoquerai tout à l'heure, a fait sa thèse sur Castellion. Et j'ai vu qu'il a été réédité, Castellion. Je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Son traité là, sur la défense des hérétiques, un gros pavé, il a été réédité il y a quelques années. Là. Mais c'est un esprit intéressant, très original, un esprit intéressant à étudier. Et puis, il y a trois colonies donc, américaines qui sont des exceptions donc, à l'intolérance religieuse. Le Rhode Island, le Maryland et la Pennsylvanie. Oh, malheur. Ouais, c'est juste après. Non, il y en a une autre, je crois.
Là, je pense que c'est surtout une diapo qui manque.
Oui, merci. Je ne suis pas très habituée au modernisme.
Après Castellon, en fait, ça va venir. On a directement ça.
Ah, il m'en manque une. J'avais une grande carte, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas. Vous êtes grand, vous savez situer la Pennsylvanie, le Rhode Island et le Maryland. alors que mes étudiants, ils en ont besoin. Et donc, ces trois colonies sont très intéressantes. Le Rhode Island, c'est une toute petite colonie qui a été fondée par Roger Williams, un pasteur baptiste. Et dans la constitution du Rhode Island, qui date de 1638, je crois, si mes souvenirs sont bons, on voit pour la première fois... Ah oui, mais il m'en manque deux même. Bon, c'est pas grave. On voit pour la première fois... Ah, mais c'est peut-être après. Je ne sais plus si c'est moi qui déraille ou si c'est le PowerPoint. Bon. On voit pour la première fois apparaître la notion de liberté religieuse. Donc, c'est intéressant. 1638, c'est très tôt. Même chose en Pennsylvanie. La Pennsylvanie a été un théâtre d'accueil. Mais on en reparlera aussi un peu plus loin, de tous les exilés. Le Maryland également, parce que le Maryland a accueilli les catholiques persécutés en Angleterre. Ils étaient persécutés par l'église anglicane, hein, qui était aussi une religion d'État en Angleterre. Alors, donc, le christianisme s'est efforcé parfois d'effacer les droits de l'homme parce qu'il voulait préserver l'unité religieuse. Et la deuxième grande raison, c'est qu'il voulait préserver l'ordre social. Il y avait cette grande préoccupation de préserver l'ordre social, de préserver une sorte de pyramide de commandement dans la société. Et on a essayé d'exalter l'idée hiérarchique, en fait. Hein, un peu comme dans le code napoléonien, on a voulu vraiment qu'il y ait un commandant partout. Hein, c'est cette idée, en fait, que l'Église a voulu consolider. Par exemple, on n'a pas remis en cause l'esclavage. Alors, certains vont le faire, mais on le verra après. Globalement, on accepte l'esclavage, même si on dit que l'esclave doit être accepté comme un frère, si on essaie d'améliorer sa condition. On a accepté très longtemps l'esclavage, parce qu'il y avait des esclaves dans l'Ancien Testament, etc. Et puis, on va glisser de l'esclavage au servage au Moyen-Âge. Et c'est intéressant de voir que cette pyramide... des ordres, hein. Le clergé, la noblesse, le tiers-état, ceux qui prient, ceux qui travaillent, ceux qui combattent. Cette pyramide, elle est née en milieu religieux, en milieu monastique. C'est Adalbéron, l'évêque de Laon, qui l'a formulée au XIe siècle, mais elle était déjà dans l'air depuis l'époque de Charlemagne, chez les moines notamment. Il y avait l'idée que la société, elle est le pendant de l'Église. L'Église est un corps. Il y a ceux qui prophétisent, ceux qui guérissent, etc., etc. Mais la société aussi, on n'a pas tous la même fonction. Et on doit rester donc dans cette fonction qui nous a été impartie. C'est une sorte de prédestination divine, quoi. Si je suis dans un ordre, eh bien, je reste dans cet ordre. Et puis, donc cette volonté de préserver l'ordre social donc, se traduit par voilà, une volonté d'absolutiser hein, l'idée hiérarchique. On va réintroduire l'esclavage avec la découverte du Nouveau Monde, donc à la fin 16e, 17e siècle. Un texte juridique vient à cette époque pour s'occuper du droit des esclaves dans les Antilles Guyane. C'est le Code Noir, en 1685. Et donc, on va justifier l'esclavage sans problème. Ce qui compte, c'est de baptiser les esclaves. En gros, c'est ça. Il faut les baptiser. Il faut leur donner le repos du dimanche pour qu'ils puissent aller à la messe. Mais sinon, les esclaves, dans ce code noir, ont beaucoup moins de droits que le maître. Évidemment, ils ne sont pas considérés à égalité. Ils sont à la fois chose et à la fois homme. Ils sont hommes sur le plan religieux, dans le sens où ils doivent avoir une sépulture chrétienne. Ils doivent être catéchisés, ils doivent être baptisés, ils doivent se marier à l'église, avec l'accord du maître, etc. Mais ils sont choses, sinon. On le voit bien, ils peuvent être vendus, le maître peut les discipliner. Il ne doit pas tout de même amputer, etc., leurs membres. Ça, c'est ce que dit le texte, mais le texte n'est pas appliqué. Les recherches qui ont été menées sur le code noir montrent bien que c'était aussi une sorte de vœu pieux, ce code noir, que la monarchie, en fait, elle cherchait plutôt à ne pas indisposer les colons. Elle était bien contente de leur donner la charge de la surveillance, de la police, etc., dans les colonies. Elle ne voulait pas les indisposer. Donc le texte est quand même un texte en demi-teinte. Il y a un côté où l'esclave apparaît comme un homme, mais un côté où il est vraiment une chose, comme en droit romain, en fait. Et donc Locke, qui était aussi un penseur protestant, voilà, justifie l'esclavage. L'esclave est inférieur à l'homme. Et Locke a pourtant été souvent cité comme étant aussi un apôtre des droits de l'homme. Mais il n'empêche qu'il ne remet pas en cause l'esclavage. Cela dit, dans les Lumières françaises, on ne remet pas en cause l'esclavage non plus, hein, à part quelques voix. Sinon, c'est quand même timide. Hein, quand on regarde dans l'encyclopédie Plantation sucrière aux Antilles, on a l'impression de se trouver dans un camp de scouts. C'est très bucolique. Il y a des palmiers, des petites huttes. C'est très, très bucolique. Et on ne met jamais en avant la souffrance des esclaves dans les plantations. Alors, cette volonté de préserver l'ordre social, donc, elle se traduit aux États-Unis par une abolition très tardive de l'esclavage. Bon, même si je reviendrai tout à l'heure, donc après la guerre de sécession, qui a été une guerre terrible, une guerre fratricide, une guerre civile, hein, entre vraiment les États du Nord et les États du Sud, on dit que c'est la première guerre moderne. 600 000 morts hein, à la clé, donc c'est quelque chose d'énorme. Et le président Lincoln se désolait parce qu'il disait « les deux parties lisent la même Bible et prient le même Dieu ». Donc c'est vrai que c'est un peu étonnant, hein, vu d'Europe, en fait, ce qui se passe aux États-Unis. Et en plus, quand on met fin à l'esclavage, on met tout de suite en place des lois de ségrégation sociale, raciale, pardon, des lois de ségrégation raciale dans le sud du pays. Et donc, pour préserver cet ordre social, on met en place le Ku Klux Klan, une organisation fasciste hein, qui mettait en avant la supériorité de la race blanche avec son symbole bien parlant. C'est le sang du Christ qui a coulé pour les Blancs, symbole du Ku Klux Klan. Il y a eu des pasteurs baptistes hein, dans le Ku Klux Klan. C'est une organisation pas très catholique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle existe toujours. Donc Martin Luther King s'est démené donc au XXe siècle hein, pour aboutir à l'égalité des droits des Noirs et des Blancs. Mais si vous lisez son autobiographie, il est mort en 68, donc on a commémoré il y a 10 ans maintenant, c'est vrai, les 40 ans de sa mort. Et donc, cette année, c'est les 50 ans. Ouais. J'étais intervenue pour des conférences en 2008, donc ça devait faire il y a 10 ans. Et donc, quand on lit son autobiographie, on voit combien il est désolé parce qu'il n'arrive pas à mobiliser ses collègues pasteurs dans le Sud. Alors, quand il fait ses grandes marches pacifiques, il y a les gens du showbiz qui l'assistent, il y a Marlon Brando, il y a John Baez, etc. Mais ils n'arrivaient pas à décoller de leurs églises, hein, les pasteurs du Sud, qui restaient attachés à cette idée de ségrégation, qui disaient qu'il fallait attendre, que peut-être ça viendrait en son temps, etc. Et donc, le droit de vote est accordé aux Noirs en 1964, donc c'est quand même très tard, hein. Et en 1995, donc la Southern Baptist Convention va demander pardon pour son soutien passé à l'esclavage et à la ségrégation. Alors maintenant, le christianisme a aussi promu les droits de l'homme. Donc on a vu le côté un peu sombre de notre histoire. Maintenant, on va voir un aspect un peu plus lumineux de notre histoire. Il a promu les droits de l'homme au plan peut-être plus idéologique. Et après, on verra au plan pratique. Il a mis en avant la dignité humaine. Alors, je n'ai pas pu assister à la première intervention, mais je sais qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc cette idée de valeur de la personne humaine, parce que la personne humaine est quand même un être créé à l'image de Dieu. La personne humaine est égale avec ses frères. Il y a cette idée d'universalité. Le christianisme s'adresse à tout homme, toute nation. C'était nouveau, ça, hein, parce que dans l'Antiquité, on raisonnait vraiment en termes de petites cités, de micro-cités. On était fiers de l'appartenance à sa cité. Et donc, il y a cette idée de citoyenneté céleste qui concerne vraiment tout le monde, quel que soit son statut social. Et en même temps, le christianisme apporte aussi la limitation de l'État. Et on le voit dans le Nouveau Testament, quand il est dit voilà, de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, de rendre à César ce qui est à César. Ce sont les germes de la laïcité qui sont posés là, puisque c'est la première limitation de l'État, en fait. Hein. Il y a le domaine du spirituel et il y a le domaine de l'État. Et quelque part, l'État ne peut pas interférer sur le domaine spirituel. Il y a le temporel et le spirituel. Bon, même si on sait bien que l'Église, hein, elle a cherché à mettre la main aussi sur le temporel à travers les siècles. Donc, et puis j'en parlais tout à l'heure, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc il y a cette idée que le pouvoir de l'État, il est quand même cantonné dans une sphère propre. Donc il y a deux sociétés qui sont appelées à cohabiter. Et on sait bien que voilà, c'est toute la question, c'est la cohabitation de ces deux sociétés. Alors, au niveau de la pratique des droits de l'homme aussi, donc je m'étalerai un peu plus sur cet aspect-là, le christianisme a aussi favorisé les droits de l'homme à travers les siècles, même si à l'époque, on ne parlait pas de droits de l'homme au sens actuelle, si la notion de droit de l'homme, bien sûr, n'existait pas. On le voit en matière de droit civil et politique. Par exemple, en droit de la famille, l'Église catholique a toujours plaidé pour que le mariage soit une institution juridique ouverte à tous. Parce que quand le christianisme apparaît dans l'Empire romain, les esclaves ne pouvaient pas se marier. Il n'y avait que le concubinat pour eux, qui était une sorte de pax, on pourrait dire aujourd'hui. Hein, c'était assez semblable au mariage, mais avec moins de poids au niveau patrimonial. Donc il valait mieux être marié pour le passage du patrimoine, etc. Mais c'était assez courant, en fait, hein, le concubinat à cette époque dans l'Empire romain. Et l'Église dit que les esclaves aussi peuvent se marier. Même, bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, hein, parce qu'après, l'Église catholique dira que le mariage, c'est aussi la dot, parce qu'elle va reprendre, évidemment, la législation qui existait. Mais surtout, il y a un point qui est capital et qui a influencé notre droit jusqu'à nos jours, c'est que l'Église catholique, le droit canonique, a toujours mis au cœur du mariage le consentement matrimonial. Alors, en droit romain, il était question de consentement, mais c'était surtout le consentement des parents, du père de famille, au mariage de ses enfants. Comme le père pouvait exposer ses enfants, hein, on évoquait tout à l'heure, il devait consentir au mariage de ses enfants. Et il pouvait très bien lier et délier, hein, d'ailleurs, le mariage de ses enfants. Si jamais il y avait une autre union plus intéressante au plan patrimonial, il pouvait défaire une union pour en composer une autre. Hein. C'était vraiment lui qui avait le choix. C'est lui qui donnait son consentement. Donc pour l'Église catholique, le mariage est issu du consentement des intéressés. Et donc c'est vraiment une volonté de préserver donc les fiancés, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre droit actuel, il y a un article, c'est l'article 146 du Code civil, qui dit qu'il n'y a pas de mariage s'il n'y a pas de consentement. C'est le cœur du mariage, le consentement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des formes, des apparences de mariage, mais s'il n'y a pas de consentement, on enlève le cœur du mariage. Et c'est la raison pour laquelle les juges aujourd'hui peuvent annuler des mariages forcés, par exemple. Il n'y a pas de consentement si c'est un mariage forcé, ou des mariages blancs. Parce que dans un mariage blanc, il y a peut-être un consentement à frauder la législation, mais il n'y a pas de consentement à vivre en communauté de vie. Donc c'est très intéressant de voir, enfin pour l'historien du droit, de voir ces principes qui glissent comme ça à travers les siècles. Et puis l'Église catholique met en avant l'égalité de l'homme et de la femme, notamment en matière d'adultère, ça on le voit très bien en histoire du droit pénal, parce que à travers les siècles, depuis des millénaires, seul l'adultère de la femme était pris en compte. C'est-à-dire que l'adultère de l'homme, on considérait que c'était normal. Mais l'adultère de la femme a toujours été considéré comme plus dangereux, étant donné qu'il pouvait donner lieu à une grossesse. Et donc, qui dit grossesse, dit enfant illégitime, bâtard, plus tard on dira les bâtards sont les enfants de la grange en droit germanique. La Révolution française en fera les enfants de la nature, d'où le terme d'enfant naturel. Et donc, ces bâtards, ces enfants naturels, viendraient grignoter le patrimoine des enfants légitimes. C'est pour ça qu'on a toujours dit la bâtardise, l'adoption aussi, l'Église catholique ne voulait pas entendre parler d'adoption. Ça perturbait les parts, on disait, ça perturbe les parts, c'est pas un enfant naturel, il n'est pas biologique, ça perturbe les parts successorales, pardon, au même titre que l'adultère. Et donc l'adultère de l'homme, donc, on ne s'en occupait pas, et l'adultère de la femme, mais si vous regardez dans l'Ancien Testament aussi, hein, il n'est question que de l'adultère de la femme, hein, alors évidemment elle est lapidée avec son complice, mais il n'est pas question, si on ne voit pas, si un homme est surpris en flagrant délit d'adultère, on n'avait pas la même conception de l'adultère. C'est la femme d'autrui. C'est avec la femme d'autrui. Oui. Mais oui, avec la femme d'autrui. Ouais.
C'est comme l'homme qui est
puni. Mais avec si la femme est mariée, apparemment c'est ça. Hein.
Oui, sinon,
mais c'est comme dans le code d'Amourabi. Oui,
sinon, il est obligé de l'épouser.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas d'adultère.
Il n'y a pas d'adultère. Voilà. Parce qu'aujourd'hui aussi, l'adultère, c'est toute relation sexuelle en dehors du mariage. Mais à l'époque, c'était pas on considérait même en droit romain. En droit romain, l'adultère, c'était uniquement avec une femme mariée. C'était le vol d'une femme d'autrui, en fait. Et donc l'Église va dire l'homme et la femme sont égaux, et donc en cas d'adultère, ils doivent subir les mêmes peines. C'est-à-dire, c'était des pèlerinages, des pénitences, des aumônes, etc. Et c'est très intéressant parce que dans le code pénal napoléonien, qui date quand même de 1810, dans le code pénal napoléonien, quand on lit les travaux préparatoires, on voit les motivations, en fait, hein, qui éclairent donc les articles du Code. Et on voit qu'il y a deux styles de réflexion. Il y a deux obédiences. Il y a ceux qui veulent être fidèles au droit romain et ceux qui veulent être fidèles au droit canonique. Et il y en a qui disent, en droit romain, c'est l'adultère de la femme qu'il faut punir parce que c'est dangereux pour la paix des familles, pour les successions, etc. Et il y a ceux qui ont la vision du droit canonique et qui disent, oui, mais faut-il encore raisonner ainsi ? Dans le droit canonique, on met en avant l'égalité des conjoints en matière d'adultère. Et on va trancher en disant que le droit romain avait bien raison, il faut préserver la paix des familles, la solidité des successions. Et donc l'adultère de la femme est puni de prison jusqu'à 2 ans, et le mari peut l'enlever de prison en tant que magistrat domestique. Et le mari, lui, n'est puni que d'une amende, et seulement s'il entretient la concubine au domicile conjugal. Parce qu'on estimait que s'il entretenait la concubine au domicile conjugal, là c'était un vrai adultère, mais que si c'était juste des liaisons en dehors de la maison, ça n'avait aucun problème. Donc on revient de loin quand on y pense. C'était en 1810, hein, et c'est la loi de 1975 qui va dépénaliser l'adultère, qui va faire sauter tout ça. Alors, c'était plus appliqué, il y avait un bel exemple de désuétude du droit, parce que le divorce avait été ouvert entre-temps en 1884, le divorce pour faute, donc les maris n'allaient pas étaler tous leurs problèmes conjugaux sur la place publique, ils choisissaient le divorce. Mais ça nous montre, voilà, on vient quand même de très loin, et dans cette histoire, l'Église catholique a quand même toujours favorisé le consentement matrimonial, plus que les protestants d'ailleurs. J'ai été amenée à travailler sur le mariage chez les protestants, Luther disait bien que si ma fille se marie sans mon consentement, Dieu ne bénit pas un tel mariage, que dans l'Ancien Testament, le père donnait son accord pour les mariages. Donc en matière de droit de la famille, oui, il y a encore, on est quand même redevable à l'Église catholique. Alors la liberté religieuse, donc j'y reviens par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, la liberté religieuse a pu naître aussi grâce à un terreau marqué par le christianisme. Donc c'est le Rhode Island avec Roger Williams, où on voyait donc le premier texte qui faisait apparaître la liberté religieuse. C'est aussi le Maryland. L'expérience a duré moins longtemps au Maryland. On a reçu donc tous les catholiques persécutés. Mais c'est vrai que ce sont des colonies tout à fait originales, hein, dans leur organisation. Et voilà ma petite carte que je cherchais tout à l'heure. Mais voilà, c'est ça, quand on déplace, on ne sait plus trop où on en est. Donc le Rhode Island, tout petit, le Maryland et la Pennsylvanie. Les Quakers ont eu donc une politique tout à fait remarquable en matière de droits de l'homme à cette époque-là. Hein. Si on situe, c'est 1681, pour comparer ce qui est comparable à cette époque, on est sous le siècle de Louis XIV en France, et on promulgue le Code Noir, dont j'ai parlé tout à l'heure, et l'édit de révocation de l'édit de Nantes, qui oblige donc tous les protestants à choisir la clandestinité ou à s'enfuir à l'étranger. Et donc à cette époque, les Quakers donc fondent Philadelphie, la ville de l'amour fraternel, en référence à l'Apocalypse. Ils mettent en avant l'égalité des hommes, ils ouvrent leurs écoles aux Noirs, ils accueillent tous les persécutés du monde. Ils ont été très, très loués, ces Quakers, parce qu'en raison de leur tolérance, Voltaire, qui n'était pas très religieux, mais voilà, il disait que les Quakers, quand même, s'il y a des gens à respecter, ce sont les Quakers, parce qu'ils sont très en avance. Ils luttent contre l'esclavage, ils améliorent les prisons au XIXe siècle. Diderot disait dans l'encyclopédie, ce sont peut-être des fanatiques, mais en tout cas des fanatiques bien estimables. Et là, je suis en train de travailler en ce moment sur Elizabeth Fry, qui a été une pionnière en matière d'amélioration des prisons au XIXe siècle. C'était l'épouse d'un banquier, elle est anglaise donc, c'est l'épouse d'un banquier Quaker assez fortuné. Elle a élevé, je ne sais pas, une dizaine d'enfants, et ensuite elle s'est complètement donnée à la cause de l'amélioration des prisons, suite à Howard, un puritain aussi, qui a travaillé dans ce sens à la fin du XVIIIe siècle. Mais Elizabeth Fry est venue en France aussi. Alors, c'était Mrs. Fry, elle était vénérée en France, parce que c'était rare de voir des femmes comme ça mener campagne pour l'amélioration des prisons. On n'était pas habitués sur le sol français, c'était une culture beaucoup plus machiste, si vous voulez. Et donc aujourd'hui encore, j'ai été amenée à voir que les Quakers sont très très nombreux dans toutes les structures de défense des droits de l'homme, hein, chez Amnesty, chez la CAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, Human Watch, etc. Dans beaucoup de structures, ils sont très présents, alors qu'ils sont, numériquement parlant, ils sont très peu nombreux, je crois qu'ils sont peut-être 200 ou 300 000 sur la scène internationale. On les trouve très nombreux aussi dans les ONG pour la défense de l'environnement. Greenpeace et autres. Alors, le christianisme est intervenu aussi pour l'abolition de l'esclavage. Hein, tout à l'heure, j'ai montré l'autre côté, mais il y a eu aussi des héros de la foi, comme disent les Britanniques, hein, qui ont lutté contre l'esclavage. Donc la lutte contre l'esclavage, elle a pris une coloration beaucoup plus religieuse que chez nous en Angleterre, avec les campagnes abolitionnistes qui sont menées par Clarkson en haut, Quaker, et Wilberforce en bas. Je crois que c'est Wilberforce qui était membre du Parlement, et donc il va pouvoir donner une impulsion, hein, il va pouvoir faire connaître justement le problème de l'esclavage au niveau de la Chambre des communes. Et les deux hommes ont travaillé de pair jusque dans les années 1840. Ils sont venus en France, ils ont été faits citoyens d'honneur de la République française sous la Révolution en 1794. Et leur médaillon, « Ne suis-je pas un homme mais un frère », leur médaillon est devenu l'emblème de la société pour la société des Amis des Noirs sous la Révolution française. Mais en tout cas, ils sont très en avance. Leur action a porté ses fruits, puisque en Grande-Bretagne, on abolit la traite, donc le commerce des esclaves, en 1807, et on abolit l'esclavage en 1833. Alors que chez nous, c'est un petit peu plus tardif, même si sous la Révolution française, l'abbé Grégoire avait déjà condamné l'esclavage, hein, il avait déjà écrit des articles très hostiles à l'esclavage. L'abbé Grégoire a été panthéonisé, d'ailleurs, lors du bicentenaire de la Révolution française. Le pape, pas très en avance, hein, il condamne l'esclavage en 1839. En fait, la papauté était attachée à cette idée hiérarchique, quelque part, hein, cette idée hiérarchique, ça lui convenait bien. Et puis aussi, elle a eu du mal à se reconnaître dans un mouvement qui était quand même nettement coloré protestant. Donc elle a du mal à rejoindre, parce que le congrès de Vienne en 1815 déjà a encouragé à mettre fin à la traite et à l'esclavage. Mais la papauté vraiment a traîné des pieds. Je crois qu'il a fallu solliciter le pape pour qu'il vienne au congrès de Vienne en 1815. Il est venu, je crois, en traînant les pieds, ou il a fait envoyer un vague émissaire. Mais il a vraiment traîné des pieds par rapport au monde protestant. Donc, en France, on abolit l'esclavage en 1848 avec la loi Schœlcher. Hein. Schœlcher est un protestant franc-maçon. Il était aussi anti-esclavagiste. Alors, cela dit, c'est pas uniquement par pure philanthropie qu'on abolit l'esclavage en 1848, mais c'est aussi pour des raisons économiques. Parce que les économistes, et Victor Schœlcher aussi le disait dans son ouvrage sur l'abolition immédiate de l'esclavage, il disait l'esclavage coûte cher, parce qu'il faut entretenir les esclavagés, les enfants, etc., les retraités. Donc ça coûte moins cher de salarier les gens, et en plus ils seront plus motivés. Parce que si vous salariez les gens, ça les motive de recevoir de l'argent que s'ils travaillent pour rien. En fait, c'est l'espoir du profit qui va rendre les gens plus besogneux, en fait. Et il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que la culture de la betterave à sucre s'est développée en France dans les années 1820-1830, ce qui rendait beaucoup moins nécessaire l'exploitation du sucre de canne aux Antilles. Donc le décret, en tout cas, paraît en 1848 avec la Seconde République, hein, le décret d'abolition. Vous le lirez sur Internet, ce décret d'abolition, il laisse un petit peu mal à l'aise parce qu'on a l'impression que tout tourne autour des planteurs dans ce décret. On leur donne un délai pour pouvoir affranchir leurs esclaves. Donc ils ont 10 ans, puis après on a repoussé. En plus de ça, ils sont indemnisés par l'État. Donc ils sont indemnisés pour la perte de leurs esclaves. Ça veut dire que l'homme, l'individu, est encore, comme disait Olivier Grenouillot, hein, l'esclave est encore un homme frontière. Il est à la fois homme et à la fois chose, puisqu'on indemnise le maître, hein, pour la perte de son bien, de son outil de travail. Donc ça laisse un certain malaise, hein, la lecture. Et rien, il n'y a rien sur les esclaves, ils sont nouvellement affranchis. Que vont-ils faire? Il n'y a rien, il n'y a pas de pécule pour eux, on n'a rien prévu. La loi n'a rien prévu. Alors, en matière de droits économiques et sociaux, alors nous, en droit, on parle toujours des droits de première génération et des droits de seconde génération. Les droits de première génération, c'était ceux de la Révolution française. Liberté de penser, liberté d'aller et venir, liberté du consentement à l'impôt, etc. Et les droits de seconde génération, ce sont des droits qui demandent à l'État d'intervenir. Ils demandent à l'État d'intervenir pour l'assistance, pour l'éducation, pour... le droit au travail. En 1848, on avait parlé d'un droit au travail. Et donc, c'est en 1848 qu'on introduit la fraternité dans notre devise républicaine. C'est une grande époque, un peu de révolution utopiste, 1848, un peu comme 1968. Et c'est à cette époque que Lacordaire, qui est un dominicain, faisaient des conférences à Notre-Dame, qui étaient très suivies. Et Lacordaire a dit la chose suivante, que j'aime beaucoup, parce qu'elle est très d'actualité, je trouve. Hein. Il disait « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. » Pourquoi ? Parce qu'au XIXe siècle, on vivait sur le socle de la Déclaration des droits de l'homme et du Code civil. Et dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a le droit de propriété. Droit inviolable et sacré. Vous le lirez, article 17, hein, droit inviolable et sacré. Et dans le Code civil, on reprenait tout ça. Hein, le droit de propriété, c'était vraiment exalté dans le Code civil. Et l'individu pauvre n'avait pas vraiment de place dans le Code civil. Et donc, Lacordaire voilà, disait... l'État doit intervenir pour protéger aussi les pauvres. À l'époque, il n'y a pas de droit du travail. Il y a eu une loi en 1841, enfin, on verra, sur le travail des enfants, mais très limitée. Et donc, on ne voulait pas trop entendre parler de l'intervention de l'État dans l'entreprise, comme dans la famille, d'ailleurs. Hein. On disait que la famille, c'est le Code civil, ça. La famille, c'était une entité sous l'autorité du père, et ça ne regardait pas l'État. Le département était sous l'autorité du préfet, l'académie était sous l'autorité du recteur, etc. C'était une conception très pyramidale de la société. Et donc là, en 1848, il y a une volonté de faire intervenir l'État pour s'occuper justement du droit du travail, du droit des travailleurs, parce qu'on est entré en révolution industrielle depuis les années 1830, et les conditions du prolétariat au 19e ont été terribles hein, avant l'intervention de l'État. Bien pire qu'elle ne l'était sous l'ancien régime, avant les déclarations de droit, donc. Alors, l'État va intervenir donc, au 19e, fin 19e surtout, même début 20e, en matière de droits sociaux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de droit avant, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est passé du noir au blanc, parce qu'avant la Révolution, donc on ne parlait pas de droits de l'homme, mais il y avait des dispositifs de régulation sociale qui remontaient même à l'Ancien Testament, que l'Église avait décliné avec le glanage, le grappillage, il y avait le droit de glander, et eux, je dis toujours aux étudiants, le droit de glander, et eux, c'était le droit d'amener ses porcs pour brouter, manger les glands, à l'époque évidemment les porcs se nourrissaient de glands et pas d'hormones comme aujourd'hui, dans des forêts communes, il y avait c'était les pâturages communs, indivis en fait, ils appartenaient à toute la communauté des habitants, on avait une conception beaucoup plus communautaire de la propriété. C'est la Révolution française qui va renouer avec une conception du droit romain. Ce qui est à moi et pas à toi. Donc, le Code civil, c'est ça. Hein, c'est mes biens, les différentes façons de transférer mes biens. C'est un code très bourgeois, c'est ce que diront plus tard. Mais c'est ça, le Code civil. Hein, c'est très bourgeois dans le sens où les trois quarts du code tournent autour de la propriété dans ce Code civil. Et donc, avant la Révolution, on connaissait le glanage et le grappillage. Il y avait l'interdiction du prêt à intérêt. Depuis saint Thomas d'Aquin, on avait repris cette disposition donc, à l'Ancien Testament. Il y avait la théorie du juste prix, le prix d'un objet, c'est le prix de la matière première et le prix du temps passé à confectionner cet objet. Donc tout ça, il y a des racines chrétiennes. Il y avait le repos du dimanche et des jours fériés. Il y avait beaucoup de jours fériés sous l'Ancien Régime, par exemple. Au XIXe siècle, avec la Révolution industrielle, on aura tendance à grignoter les jours fériés et surtout le dimanche, si bien qu'il va revenir dans notre droit en 1906, hein, donc c'est le début du XXe siècle. Alors, toujours en matière de droits économiques et sociaux, donc on assiste à la loi de 1841. On dit toujours que c'est notre première loi de droit du travail sur le travail des enfants. Son contenu est très modeste. Hein, elle interdit le travail des enfants de moins de 8 ans. Elle limite à 12 heures par jour la journée de travail pour les 8-12 ans et 16 heures par jour après. Donc, c'est dérisoire. Et en plus, elle ne s'applique que dans les entreprises de plus de 20 salariés. Ça veut dire qu'elle ne concerne pas la majorité des entreprises. Mais c'est symbolique, c'est-à-dire que l'État entre dans l'entreprise. L'État commence à se mêler de ce qui se passe dans la sphère privée. Et cette loi a été réclamée par le patronat catholique du nord de la France, par le patronat protestant aussi de l'Alsace. Alors, côté catholique, donc le pape, à la fin du 19e siècle, va condamner dans son encyclique Rerum Novarum aussi les excès du capitalisme et du socialisme. Hein. Il parlait de syndicats, bon, on ne sait pas très bien si c'était syndicats, corporations, mais voilà, il y a tout un mouvement idéologique qui se fait quand même en faveur des salariés. Côté protestant aussi, avec Charles Gide, l'école de Nîmes, qui met en avant l'idée de solidarité. L'idée de solidarité, elle a été promue par Léon Bourgeois au début du XXe siècle, qui a écrit un ouvrage qui a écrit un ouvrage qui s'appelait Solidarité et qui a inspiré d'ailleurs l'impôt progressif sur le revenu. l'impôt progressif sur le revenu qui entra en vigueur après la Première Guerre mondiale. Alors, en matière de droits économiques et sociaux, toujours, un personnage que j'aime bien, c'est l'abbé Lemire, qui a été député pendant 35 ans et qui nous a laissé des carnets. Je crois que ça a été le mandat le plus long de député sous la Troisième République. Il était originaire du nord de la France, d'origine paysanne, et il s'est rendu compte, quand il a été nommé, je crois, à Hasbruck, dans sa première paroisse, que tous les ouvriers qui arrivaient là étaient des déracinés, en fait, des ruraux déracinés. Donc, il fallait essayer d'améliorer leur vie. Ils étaient coupés de leurs origines. Alors, il a eu l'idée de mettre en place les jardins ouvriers, qui sont devenus les jardins familiaux maintenant, depuis 1952. Mais l'idée, c'était ça, c'était que l'ouvrier puisse avoir un petit lopin de terre pour venir avec ses enfants cultiver, avoir un appoint au salaire. Et surtout, il a voté pendant ces 35 ans, il a voté pour toutes les lois favorables aux ouvriers. Il a eu des soucis avec sa hiérarchie. Il a été démis de ses fonctions par l'évêque de Cambrai, je crois, dans les années 1814, parce qu'il votait comme les radicaux, comme les socialistes. Ben oui, à l'époque, il a été pour le repos du dimanche, il a voté pour la grande loi de droit du travail sur l'indemnisation de l'accident survenu à l'occasion du travail. C'est une grande loi de 1898, parce que jusque-là, il n'y avait rien hein, quand il passait des accidents du travail. Il a voté pour des lois pour les congés maternité, etc. Les grandes lois sociales, en fait, il a plaidé pour ces grandes lois sociales. Du côté protestant, il y a aussi l'armée du salut. À la fin du 19e siècle, donc elle voit le jour à Londres, la misère ouvrière était encore pire à Londres qu'en France. Hein. Et l'armée du salut a été très mal vue dans le milieu protestant au départ. On l'a même appelée l'armée du chahut. Je ne sais plus, un pasteur libriste dont j'ai oublié le nom, qui disait « Mais qu'est-ce que c'est que cette armée du chahut ?» Et surtout, ce qu'on lui a reproché, si vous regardez la photo à gauche, c'est qu'elle mettait en scène des femmes. Il y avait des femmes au premier rang qui chantaient. Alors le brave pasteur, dont j'ai oublié le nom, disait ces jeunes femmes aux joues roses seraient beaucoup mieux chez elles, dans leur maison, auprès de leur mari et de leurs enfants. Et qu'est-ce que c'est que cette façon de les exhiber aux yeux du public, etc. Mais donc voilà, maintenant, aujourd'hui, elle est reconnue. Mais l'armée du... Voilà, son origine anglo-saxonne, si vous voulez, a quand même pesé sur elle. L'armée du salut a beaucoup travaillé aussi auprès des bagnards à Cayenne. Le bagne a fermé après la Seconde Guerre mondiale et les derniers bagnards sont revenus dans les années 1970 parce que le souci, c'est qu'à leur sortie, ils ne pouvaient pas se financer le billet de retour en Europe. Il n'y avait pas Blablacar à l'époque, hein, donc forcément, c'était long, c'était cher de revenir en bateau. Et l'armée du salut avait construit une conserverie, une pêcherie, pour les faire travailler, pour qu'ils retrouvent leur dignité d'homme et qu'ils puissent financer leur billet de retour en Europe. Ensuite, les diaconesses de Reuilly, fondées en 1841, à la demande des hôpitaux, d'ailleurs en Alsace, parce qu'il n'y avait que des sœurs catholiques, mais pas protestantes. Et donc, voilà, les diaconesses de Reuilly, elles ont eu beaucoup de mal aussi. On ne voulait pas entendre parler de ces sœurs dans le milieu protestant. Bon, elles ont fondé maintenant des institutions qui sont tout à fait reconnues. John Bost aussi s'est intéressé aux aliénés. À l'époque, les aliénés croupissaient dans les prisons. On les enchaînait, etc. Donc, lui, il a mis en place... une structure tout à fait accueillante et novatrice hein, pour les aliénés. Henri Dunant, qui fonde la Croix-Rouge en 1863. Henri Dunant dit dans ses mémoires qu'il a beaucoup été inspiré par Elisabeth Fry. Elle l'a beaucoup marqué, mais il n'est pas quaker. C'est un apôtre, un fils du réveil, en fait, hein, du réveil de Genève, Henri Dunant. Il avait été frappé par la guerre de Crimée. J'accélère le processus, après ce sera fini. En matière d'éducation... Donc l'Église catholique aussi, donc l'idée d'éducation sont les droits aussi de la deuxième génération, l'État doit pourvoir l'éducation. Et donc cette idée d'éducation est mise en avant très tôt dans l'Église catholique, dans les monastères. Très tôt, on a dit que les monastères avaient été des pépinières d'érudition. C'est là qu'on copiait, qu'on recopiait les écrits sacrés depuis l'Antiquité d'ailleurs. Et on a mis en place des écoles monastiques, des écoles épiscopales auprès de l'évêché, plus tard les universités au Moyen-Âge. C'était la Sorbonne, donc au Moyen-Âge, une leçon de théologie, plus de nombreuses congrégations qui voient le jour, les oratoriens, les jésuites, les frères des écoles chrétiennes, notamment avant la Révolution française et après. Il y en aura beaucoup pendant tout le XIXe siècle. Après, elles seront malmenées, ces congrégations, par les lois Jules Ferry. à la fin du 19e. Alors là, c'est un petit clin d'œil pour mes origines, enfin plus ou moins, mais en Haute-Loire, si vous marchez près du Mazet-Saint-Voix, le Chambron-sur-Lignon, en direction du Puy, il y a beaucoup de petites maisonnettes comme ça, surplombées d'un petit clocheton avec une croix. Ce sont des maisons de béates. On les appelait les assemblées là-haut, les assemblées, maisons de béates. Et en fait, ces béates ont vu le jour, je crois, au XVIIe siècle, pour apporter de l'instruction dans les campagnes. Parce que là-bas, il faisait froid l'hiver, il y avait de la neige, etc. Et il fallait bien apporter une petite instruction et aider les femmes donc à se débrouiller et à apprendre la dentelle. Parce que la dentelle a été un appoint au salaire dans ces contrées un peu reculées. Et donc la béate enseignait la dentelle aux femmes. C'était une sorte de diaconesse, on dirait, aujourd'hui. Elle s'occupait des mourants, elle allait sonner la cloche, etc. Elle avait un rôle de diaconesse. Ce n'était pas un statut de religieux. C'était une vieille fille, en fait, mais qui n'avait pas un statut de religieux. Et les populations ont été très attachées à leur béate. Les maisons étaient construites par la communauté des habitants. On apportait le bois pour le chauffage. On nourrissait la béate. Et donc, elle s'occupait, voilà, de son service auprès de la paroisse en question. Et il y a beaucoup de ces petites maisons. Sur la terre protestante aussi, on va mettre en avant l'éducation. Luther a été le premier à initier les catéchismes. Moi, je croyais que c'était né en milieu catholique, les catéchismes. Pas du tout, c'est Luther, avec le grand catéchisme qui était destiné aux pasteurs, le petit catéchisme qui était destiné aux simples paroissiens. Et c'était donc des résumés de la foi chrétienne. Et d'ailleurs, l'Église catholique va reprendre le principe après le Concile de Trente, en 1565. Elle fait paraître le catéchisme du Concile de Trente. Donc elle a repris tout à fait cette idée. Puis il y aura des catéchismes par diocèse aussi. Et Calvin donc fonde une... Je vous enverrai le document en PDF, et comme ça il n'y aura pas tout ça. Calvin fonde une académie de théologie à Genève qui a été très très suivie aussi en matière d'éducation. Une Bible de Luther à gauche. En terre puritaine également, Harvard est fondé dans le Connecticut, ou le Massachusetts, je ne sais pas, je confonds souvent. Donc au XVIIe siècle, c'est très tôt, hein, il y avait cette idée vraiment que l'instruction était très très importante. Les Quakers ont toujours été à la pointe pour mettre en avant l'école pour tous. En France, on met aussi en avant l'éducation à travers plusieurs personnages. Oberlin, en Alsace, je n'ai pas visité le musée, mais il paraît que c'est intéressant.
Excellent,
oui. Ouais, il paraît.
Il l'a refait en plus j'ai
lu.
Et c'est ouais. Remarquable.
Il paraît.
Pour les enfants aussi, ils ont aménagé aussi, parce qu'il y avait tout un apport au niveau de la pédagogie.
Oui. Oui, sa femme et lui ont fondé ce qu'on appelait les écoles d'asile, c'est-à-dire les écoles maternelles, c'est un peu les ancêtres des écoles maternelles. Et puis, il était très novateur en matière botanique, agriculture aussi, l'irrigation, etc. Et je crois qu'il a des planches, il y a des planches d'Angélique, j'ai vu sur Internet, enfin toutes sortes de... Moi qui m'intéresse au jardinage, je dis, il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir. Donc c'était un peu un naturopathe hein, à l'époque, au Berlin. Et donc voilà, à l'origine des jardins d'enfants, salles d'asile. Et puis toujours dans le milieu protestant, il y a Guizot. Alors Guizot a été très très mal vu dans l'historiographie parce que c'est un conservateur, Guizot. Mais le problème, c'est qu'il est né en 1787. Son père meurt, il est guillotiné sous la terreur en 1794. Guizot a 7 ans. Son père était pasteur au désert, dans la clandestinité, dans le sud de la France. Et Guizot va partir à Genève, il va être élevé par sa mère et sa tante dans une éducation très stricte, hein, comme on peut bien imaginer. Et Guizot va en conserver l'idée toute sa vie que la Révolution, c'est un mal. Il faut l'éviter à tout prix. D'où une politique très conservatrice. Quand il arrive au pouvoir en 1830, jusqu'en 1848, sous la monarchie de Juillet, il ne veut pas entendre parler de suffrage universel. C'est le suffrage censitaire, qui repose sur l'impôt. Seuls les riches votent, en fait, hein, avec ce système. Et ça va déclencher la révolution de 1848, etc. Il a été détesté à cause de sa politique conservatrice. Mais en même temps, c'est un esprit éclairé. On voit, il était pour l'éducation des femmes, il a écrit une correspondance à sa fille. C'était un esprit éclairé. Il a vraiment voulu favoriser l'éducation pour tous. Et on lui doit la première loi sur l'école publique, en 1833. Loi qui oblige les communes à construire une école. De garçons. Bon. Et si elles ont les moyens, de filles. Bon, oui, mais à l'époque, c'est difficile d'aller trop vite. Une école de garçons, c'était obligatoire. Et si elles peuvent, une école de filles. Bon, bien sûr, les écoles ne peuvent pas, les filles, elles continueront d'aller dans les écoles privées. Mais voilà, c'est intéressant puisque c'est 50 ans avant les lois Jules Ferry. Sous la Troisième République aussi, c'est plus connu, on le sait, il y avait beaucoup de protestants dans toutes les instances éducatives. Hein. Ferdinand Buisson, son dictionnaire de pédagogie et d'instruction. Il a été directeur de l'enseignement primaire. Il a été... On le trouve en ligne, le dictionnaire pédagogie et d'instruction. C'est intéressant quand on voit comment on percevait à l'époque les choses. On le trouve en ligne, très facile d'accès. Ils ont été très nombreux aussi pour participer donc, à l'école libre des sciences politiques que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, pour aller plus loin, vous trouverez, j'enverrai aux organisateurs le diaporama. Je peux vous envoyer un petit document écrit si vous voulez un article que j'ai écrit. Donc, après, il y aura plusieurs façons pour vous. Si vous aimez l'histoire, vous pourrez creuser plus ou moins en fonction de ce que vous aimez. Alors, je vous remercie. J'ai peut-être un petit peu débordé.
Non, c'est parfait.
S'il y a des questions, voilà.
On a 30 secondes d'avance.